France Culture.
Talmudique. Chaque civilisation insiste sur ses valeurs fondamentales en démultipliant le nombre de mots et d'expressions pour les nommer. C'est le cas du temps, dont la terminologie dans la Bible offre un chatoiement extraordinaire, d'une grande beauté, chaque terme apportant une connotation singulière de durée, d'intensité, de répétition, de régularité, d'exceptionnalité. Chatoiement qui fit dire au grand penseur Abraham Joshua Heschel que les Juifs étaient les bâtisseurs du temps et que la cathédrale juive est faite des éléments de ce temps qui organisent et rythment les jours, les semaines, les mois et les années. La Kol Zman veut être le Chol Davar. Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le soleil, dit Kohelet dans l'Ecclésiaste. Le temps est présent dans toutes les réflexions et tous les rites de la tradition juive, l'occasion de questionner le fait de prendre son temps, de le gagner, de le perdre, le gaspiller, l'offrir, le partager et surtout le sanctifier. Et ce sont quelques-uns de ces temps que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de Myriam Ackermann-Sommer, qui vient de publier « Les nouveaux moutons de Panurge » aux éditions Albin Michel, et de Michael de Saint-Chéron, qui avec Myriam Ackermann-Sommer a publié chez Actes Sud un ouvrage intitulé « Revenir », sous-titré « Dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive ». Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Myriam Ackermann-Sommer, vous êtes normalienne et agrégée d'anglais et la première femme rabbin orthodoxe en France. Michael de Saint-Chéron, vous êtes philosophe des religions et critique d'art, chercheur affilié à l'école pratique des hautes études. Et si vous avez écrit ensemble ce livre sur le retour, c'est parce que tous les deux, mais très différemment, vous êtes revenus au judaïsme, ce que vous expliquez dans votre ouvrage commun intitulé « Revenir ». Ainsi, vous vous inscrivez tous les deux dans le temps du retour, une expression qui mérite un commentaire. Myriam Ackermann-Sommer, éclairez-nous sur ce temps du retour, le vôtre d'abord, et la manière dont vous le concevez selon les textes de la tradition, ce qui permettra en passant de nous expliquer ce qu'est une femme rabbin orthodoxe. Myriam Ackermann-Sommer.
Je commencerai par souligner la polysémie de ce terme fascinant en hébreu de teshuvah, qui désigne à la fois le repentir, mais aussi la réponse, le retour. Retour en un lieu que l'on n'aurait jamais vraiment connu. La référence à Lévinas nous a été fort utile pour éclairer la signification profonde de ce retour que je me suis permise de rapprocher du désir métaphysique d'une patrie dont on ne viendrait finalement pas vraiment. Dans le retour, il y a cette volonté de retrouver certes ses racines, mais pas forcément à l'échelle familiale directe. Dans mon cas, je venais d'une famille juive d'origine tunisienne qui avait été assimilée depuis plusieurs générations. Ma mère et ma grand-mère avaient fait ce que l'on appelle des mariages mixtes sans que cela ne pose jamais problème. Et quand j'ai voulu me tourner vers la religion juive, la pratique et surtout l'étude, il a fallu me tourner vers des sources plus anciennes. La lecture de Béni Lévi m'a beaucoup éclairée. Je lui ai donc consacré un chapitre de ce premier ouvrage, Revenir, que j'ai écrit grâce à Michael de Saint-Chéron et avec lui, en dialogue. Et chez Béni Lévi, je trouvais ce concept très intéressant de voie sinaïtique obscure qui renverrait à une antériorité qui ne serait pas seulement familiale, pour signifier que lorsqu'on revient au judaïsme, on ne fait pas seulement le choix d'une pratique individuelle qui serait, par exemple, en contradiction avec celle de parents ou de grands-parents moins pratiquants. Non, il y a une vraie volonté de revenir à une source plus profonde. C'est en ce sens que j'ai conçu mon parcours de teshuvah, comme tourner vers les textes, tourner vers une tradition d'une richesse dont j'ai très vite découvert qu'elle était inépuisable. Et je ne me suis jamais vécue comme en contradiction avec ma famille ou en conflit avec celle-ci, puisque ce n'était pas à cette échelle-là que tout se jouait pour moi.
Vous avez été éduquée dans une famille catholique pratiquante ?
C'est surtout moi qui étais en demande de religiosité assez forte et ma mère, donc juive, qui avait été convertie dans son enfance au christianisme, n'était pas catholique très pratiquante. C'est beaucoup moi qui étais en demande. Je disais que je voulais aller aux offices religieux, donc il s'avère qu'on n'allait pas à la synagogue. Donc je demandais moi aller à la messe. C'est finalement pas tant mes parents qui m'y conduisaient. Et lorsque j'ai découvert le judaïsme un peu plus tard, là je me suis dit que c'était en réalité de ce côté-là que je souhaitais me tourner.
Vous vous tournez vers le judaïsme, vers les textes, et on va en parler longuement après, et vous décidez de faire des études rabbiniques aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est qu'une femme rabbin orthodoxe ?
Eh bien, une femme rabbin orthodoxe est dotée des mêmes compétences qu'un homme. Par conséquent, la formation, qui est une formation américaine, implique la fine connaissance de la loi juive, mais aussi l'étude quotidienne du Talmud. Et par ailleurs, une donnée spécifiquement américaine que je souhaite mentionner, une formation à ce qu'on appelle l'accompagnement pastoral, c'est-à-dire l'accompagnement à la personne, avec une vocation intersubjective et interpersonnelle assumée. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours entiers pour savoir comment réagir face à telle situation, tels événements, des grands cycles de la vie, comment réagir face au deuil d'un fidèle, comment réagir face à des tensions dans le couple, et ainsi de suite. Et ainsi, un rabbin ou une rabbine, dans ce cas, vont également être au plus près de la communauté. Il ne s'agit pas seulement d'un rôle intellectuel ou de maîtrise de connaissances purement académiques, il s'agit bien d'une véritable incarnation à la fois dans la cité et dans la synagogue qu'on appelle affectueusement la choule.
Michael de Saint-Chéron, votre histoire est à la fois proche et différente. Quel fut ce temps du retour et quelle trace a-t-il laissé chez vous dans votre quotidien ? Un mouvement de retour qui peut-être ne s'arrête jamais et auquel nous sommes invités en permanence, Michael de Saint-Chéron.
Tout à fait. Mon retour a pris plusieurs strates. Évidemment, il s'est fait d'abord par des maîtres, mais ce que je cherchais, je l'avais déjà en moi, comme dirait Pascal. Et donc, probablement que ce retour et ce désir de mémoire et d'affiliation, à la fois dans ma chair et dans mon esprit, de la chose et du monde juif, je l'avais en moi depuis toute éternité, sans le savoir. Et donc, comme je le dis toujours, j'ai eu deux ou trois maîtres, enfin surtout deux, Lévinas, bien sûr. J'ai eu, après Wiesel, Lévinas pour l'étude, la lecture des textes, qui est évidemment un pan tout à fait fondamental, comme d'ailleurs en témoigne le livre de Myriam, Les Nouveaux Moutons de Panurge. Wiesel, sur le plan de la mémoire et du racidisme, et je dirais aussi le regretté Claude Vigée, qui était à la fois poète, écrivain, essayiste. Donc voilà, tout ça a contribué énormément à mon retour. Et je me suis effectivement toujours considéré juif parmi les juifs, selon la phrase de Ruth, effectivement. Mais mon enfance, mon adolescence était très baignée de chants grégoriens et dansant dans les églises.
Voilà, vous avez été enfant de chœur ?
Ah, jamais, absolument, pas du tout.
Mais vous avez fréquenté...
Ah oui, j'ai fréquenté les églises, mais surtout les églises où il y avait des chants magnifiques. Pour moi, l'esthétique est quelque chose qui est irréductible à une authentique spiritualité. Donc je ne suis pas du tout du côté des pères du désert. Je suis du côté où il y a une symbiose finalement entre l'esthétique, l'éthique et la religiosité ou la transcendance.
En philosophie, Edmond Husserl utilisait l'expression « retour aux choses mêmes » pour expliquer la démarche de sa philosophie appelée phénoménologie. J'ai le sentiment que le chemin de retour dont vous parlez tous les deux pourrait s'illustrer par l'expression « le retour au texte même ». Vous l'avez déjà un petit peu évoqué l'un et l'autre. Quels sont les textes qui ont accompagné votre retour ? Question particulièrement intéressante, car votre démarche à l'un et à l'autre s'inscrit dans deux cultures, non seulement deux cultures théologiques différentes, mais aussi littéraires, philosophiques et artistiques, Myriam Ackermann-Sommer.
Alors je dois dire que le premier texte vers lequel je me suis tournée, c'était évidemment, quand j'ai eu cette démarche de retour et que j'ai voulu découvrir le Talmud, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis procuré le traité Brachot, le traité des bénédictions, et j'ai commencé par le début. Et à ce moment-là, d'emblée, la question du temps s'est posée. Mais ma taille, à partir de quand récite-t-on le schéma ?
Pour moi, ça veut dire qu'il y a une prière que l'on doit prononcer matin et soir.
Tout à fait.
Et le Talmud se pose la question, à partir de quand, le soir, on peut prononcer, c'est pas prononcer précisément, c'est lire cette prière qui s'appelle le Shema, c'est-à-dire écoute Israël, qu'on appelle la profession de foi du judaïsme.
Exactement. Et cela m'a confrontée à l'une des maximes des pères qui était Veim lo arshav ematai. Et si c'est pas maintenant, quand ? Alors l'interprétation en est ouverte, mais ce qui résonnait en moi, c'était cette question du temps limité, de l'urgence. À partir de quand? Jusqu'à quand? C'était des problématiques qui, pour moi, étaient absolument essentielles. J'ai d'emblée perçu, ne serait-ce que parce que j'ai perdu mon père très jeune, le temps comme étant une ressource extrêmement limitée, extrêmement précieuse. Et par conséquent, je vivais déjà avec cette condamnation dont je parle dans mon livre « Les nouveaux moutons de Panurge », qui est la condamnation du Beatlesman, la perte de temps. C'est un concept élaboré par les sages dans le Talmud, qui vise à condamner ce qu'on pourrait appeler les loisirs. Alors après, il faut préciser, c'est le but de mon étude dans ce livre, c'est quel type de loisirs, qu'est-ce qu'on condamne exactement. Mais j'avoue que j'ai été très sensible très tôt à cette question du temps qui, s'il n'est pas gâché, doit être consacré.
Et consacré essentiellement, on va le voir, par l'étude. Mais je sais que vous êtes aussi féru en littérature, et particulièrement en littérature anglaise. Comment vous conjuguez cette passion pour les textes de la tradition juive et les textes de la littérature ou de la philosophie que vous lisez aussi, Myriam Ackermann-Sommer?
Je me situe au niveau académique dans une démarche résolument pluridisciplinaire, puisque mon doctorat, que je viens de terminer en littérature américaine, était consacré à la littérature juive américaine, et particulièrement un corpus de nouvelles de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce qui était absolument fascinant, c'est que chez ces auteurs, pourtant presque tous assimilés, non pratiquants, on trouvait à l'évidence un hypotexte biblique extrêmement fort, parfois même notamment chez Isaac Bashevis-Singer, d'innombrables références au Talmud et même à la Kabbale et au folklore du Shtetl, c'est-à-dire des petites bourgades juives d'Europe orientale. On avait donc affaire, là encore, à des textes habités, que je décris comme hantés dans le cadre de mon travail de thèse, a fortiori parce qu'on est dans le cadre d'un monde post-Shoah, où il faut faire parler à la fois une culture et ses fantômes, notamment à travers la perte du yiddish, qu'il s'agit de ranimer à travers les rythmes et les inflexions de la langue anglaise que vont utiliser notamment Saul Bellow, Bernard Malamude, Cynthia Ozick et bien d'autres encore.
Michel de Saint-Chéron, bien sûr, je vous pose la même question. Même si vous avez des références communes avec Myriam Ackermann-Sommer, vous avez un champ d'exploration différent. Et en quoi se conjugue-t-il ce champ avec les textes de la tradition et la pratique rituelle ou éthique qui est la vôtre, Michel de Saint-Chéron?
J'aime bien entendre ce mot « champ » sous les deux aspects effectivement polysémiques, à la fois le chant, le terrain, et le chant qu'on chante. Dans mon entrée, dans ma découverte, dans ma révélation du monde juif, la cantillation hébraïque, notamment Ashkenaz, et le chant, bien que moi-même je ne chante pas, mais peu importe, ont joué ou a joué un rôle tout à fait essentiel. Et pour moi, c'est toujours un souvenir très émouvant. Quand je pense à certaines des conférences de Wiesel, quand il dit « je n'ai plus de réponse à vos questions, je vais chanter ». Et il se mettait à chanter. Donc, pour revenir à la question et à ce que disait Myriam, ce qui a été pour moi tout à fait fondamental, en dehors des textes à la fois de Wiesel, de Lévinas, de Wiesel que j'ai pu lire, c'est la manducation, selon Rashi, de la Torah, que m'a enseigné Lévinas pendant 10 années, lorsque j'ai eu la chance et même la grâce de suivre son cours à Legno. Donc de 1983 à 1992, lui-même est mort en 95. Et ça a été pour moi une source inépuisable, finalement, d'enrichissement, de me dire que les chrétiens que j'avais été, finalement, avait une vision extrêmement partielle de ce qu'ils appelaient l'Ancien Testament et de la Bible, parce qu'ils n'avaient pas Rashi. Et le cours de Lévinas se terminait absolument obligatoirement par une page du Talmud. Et il m'a appris à lire le Talmud selon une certaine éthique, qui était l'éthique lévinassienne, et pour lui, qui était quelque chose de fondamental, puisqu'il allait jusqu'à dire que manger cachère, c'est-à-dire selon la cacheroute, les lois de la tradition juive, c'était une manière d'être éthique dans la nourriture et donc évidemment dans le rapport à l'autre. Donc ce rapport éthique que Lévinas n'a cessé d'enseigner a été pour moi une optique, comme il disait lui-même, une optique de la philosophie et de la vitalité juive.
Il y a un point important que je voudrais souligner concernant la place des femmes dans l'étude. On a l'impression, vu de l'extérieur, que dans l'approche orthodoxe du judaïsme, il n'y a pas de place pour les femmes, ni au cœur de la liturgie, ni en particulier dans le monde de l'étude. Quelle est la place de la femme, Myriam Akerman-Sommer, dans l'étude pour vous et dans votre sacerdoce rabbinique?
Je dois dire que j'ai été surprise lorsque j'ai découvert, à l'adolescence, quand j'ai fait ce retour au judaïsme. Pour moi, il était évident que ça allait passer par les textes. Il faut dire que parmi mes autres modèles, il y avait mon oncle, le grand rabbin Alexis Blum, et son épouse Anne, chez qui j'avais trouvé une source intarissable de livres. Et le fait de découvrir seulement par la suite que l'étude n'était pas accessible aux femmes partout a été comme un électrochoc. Je n'avais même pas envisagé qu'on puisse ne pas inclure les femmes dans cette dimension absolument essentielle de l'identité juive. Je me rappelle avoir lu votre livre lorsque j'étais dans cette démarche de retour qui s'appelait « Les symboles du judaïsme » et de découvrir que les femmes étaient tout de même exemptées de beaucoup de choses. Je voyais un magnifique talit, un châle de prière, je voyais les phylactères, les téphilines, le Sefer Torah, le livre de la Torah sorti le Shabbat, les lundis, les jeudis à l'occasion des lectures publiques, et je me disais, où sont les symboles du judaïsme pour les femmes ? Ça a été une interrogation lorsque, avec Michael, nous avons rédigé ces parties dialoguées de revenir, puisqu'il évoquait des expériences spirituelles spécifiquement masculines, comme les danses de Simchat Torah, les danses de joie autour des rouleaux de la Torah, qui sont une occasion de liesse. Et je lui disais, as-tu regardé ce qui se passe à ce moment-là du côté des femmes ? La réponse est simple, rien. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce retour avait des modalités différentes chez les femmes qui ne m'ont pas toujours paru satisfaisantes. Je constate par exemple qu'une femme qui fait teshuva, qui est dans une démarche de retour à la pratique, eh bien il y a une question beaucoup plus extérieure ou superficielle. Elle va commencer par devoir montrer patte blanche en mettant des jupes longues ou des manches plus longues, des vêtements plus couvrants. En d'autres termes, le retour des femmes passe beaucoup par ce qu'on appelle la tzniout. La tzniout est ici interprétée dans un sens restreint comme un ensemble de règles de pudeur vestimentaire. Je ne dis pas que dans ces règles tout est à jeter, évidemment pas, mais il est bien dommage que pour beaucoup de femmes, tout doive se réduire lorsque on fait teshuva à une question de longueur, de manches, de centimètres qu'il faudrait ajouter par-ci ou par-là. Par conséquent, pour moi, il est absolument essentiel que les femmes aient accès à l'étude des textes. Je préciserai de tous les textes, cela inclut la loi orale. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque hérésie à dire ça de nos jours, puisque c'est un changement, une innovation qui a été soutenue par tout le judaïsme orthodoxe moderne, notamment porté par le Rav Soloveitchik, qui, aux États-Unis, ouvrait ses cours de Talmud aux hommes comme aux femmes, donc des cours exactement au même niveau. Nous avons donc de qui tenir quand nous affirmons que l'épanouissement spirituel des femmes ne peut pas passer uniquement par des marqueurs sociaux comme le vêtement. On a besoin d'une expression spirituelle qui, à mon sens, peut ou doit passer par les textes.
En tant que philosophe des religions, Michael de Saint-Chéron, ne pourrait-on pas dire que le temps du retour, en écoutant Myriam, est peut-être aujourd'hui celui du retour des femmes au centre de la société juive, tout courant confondu, même s'il reste beaucoup de travail à faire, et en particulier dans la vocation rabbinique? Et si je vous pose cette question, c'est que dans votre livre sur le retour, votre livre commun, vous consacrez un chapitre à Regina Jonas, la première femme rabbin au monde, en vous appuyant et commentant « Nuit ouverte », le beau roman que Clémence Boulouk lui avait consacré, Michael de Saint-Chéron.
Oui, cette figure de Regina Jonas, pour moi, est tout à fait fondamentale, parce que c'est une femme qui était juive orthodoxe, née d'un père orthodoxe à Berlin, qui a reçu son ordination rabbinique après des difficultés gigantesques, parce que donc elle était orthodoxe et finalement aucun rabbin orthodoxe ne voulait lui donner son ordination rabbinique. Donc elle s'est retournée vers les libéraux, enfin les réformés, comme on disait à l'époque à Berlin en Allemagne. Donc finalement elle reçoit son ordination rabbinique en 1933. Elle n'a jamais eu aucune communauté à elle. Elle était envoyée de synagogue en synagogue, d'école juive en école juive, pour tenir un rôle social et pastoral, que pour reprendre le mot que Myriam Akerman citait tout à l'heure. Et après, son destin n'a fait qu'empirer dans la tragédie, puisque à partir de 40, elle a été enfermée dans un camp. De là, elle est partie pour Auschwitz. Et après, encore, quand elle a été assassinée, les rabbins, donc, ouverts, réformés d'Allemagne, ont totalement tué son nom pendant des décennies. Et au moment où il y a eu une femme rabbine qui a été, donc qui a reçu l'ordination rabbinique dans les années 90 aux États-Unis, la presse juive s'est exclamée, enfin, la première femme rabbin au monde, Regina Jonas, était totalement oubliée. Et donc après, heureusement, il y a tout un travail de mémoire qui a été fait, notamment par les historiens, y compris une historienne allemande, dont l'un des oncles avait été un horrible SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, l'histoire de Regina Jonas est assez connue, mais à mon avis pas assez, surtout pas en France. Et donc je crois qu'il y a encore tout un travail à faire. Et en tout cas, vous avez posé une question qui m'est tout à fait importante. Si j'ai tenu à faire ce livre avec Myriam Ackermann-Sommer, c'est que pour moi, le rôle de la femme est absolument prépondérant. Et vous dites dans le judaïsme, je dis oui, dans le judaïsme, et si vous me permettez, dans toutes les religions, y compris dans le catholicisme, pour ne pas parler de l'islam, le rôle et la révolution des femmes est aujourd'hui, comme disait Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou pas, je dirais que le 21e siècle sera la religion reprise par les femmes ou ne sera pas.
Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer, me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps. Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi.
Patrick Bruel, Pas eu le temps, dans une chanson écrite et composée par Félix Gray, chanson à la fois nostalgique sur le temps qui passe et toutes les occasions perdu ou raté, mais aussi sur la chance que représente le temps. Je cite « Plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. » Alors, ce temps est au centre de la vie et le judaïsme lui confère un sens si particulier jusqu'à le consacrer en un jour privilégié chaque semaine. J'ai nommé le Shabbat. Le Shabbat auquel Myriam Ackermann-Sommer vous consacrez le dernier chapitre, Éloge du repos, dans votre ouvrage « Les nouveaux moutons de Panurge ». Pourquoi conclure votre réflexion par le temps du Shabbat, Myriam Ackermann-Sommer ?
C'est ce qui va permettre d'avoir un temps de l'arrêt, un temps du repos, pour se recentrer sur l'essentiel. On aura dès lors la possibilité d'étudier, de passer du temps en famille. Ce repos, il est thérapeutique dans le contexte dans lequel nous vivons, à mes yeux. Il permet de ne pas s'enfermer dans une routine du travail à tout prix, mais aussi parfois du loisir qui prend toute l'énergie, qui va finalement nous obnubiler.
Le Shabbat est dit jour saint, Shabbat Kodesh en hébreu. La sainteté est un concept au centre du judaïsme et de vos réflexions à tous les deux. Comment, Michael de Saint-Chéron, articulez-vous la question du temps et de la sainteté ?
Déjà, avant de répondre directement à cette question, j'ai remarqué pratiquement dans ma chair que, d'après les quelques religions que j'ai pu connaître, que le judaïsme est la seule où, enfin peut-être il y en a une deuxième que je ne connais pas, où il y a une bénédiction sur le temps. Au début de chaque fête, on dit « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui nous a permis d'atteindre cet instant-ci ». Quand je dis cette prière, à la veille de chaque fête et de certains Shabbats, j'ai comme la chair de poule. Je me dis, c'est incroyable que des rabbins, des maîtres de la tradition juive, aient voulu et tenu à faire une bénédiction sur le temps. Donc, pour répondre à cette question de la sainteté du Shabbat, c'est déjà le jour où on accueille l'autre. En principe, c'est le jour où on accueille celui qui n'a pas de toit, qui n'a pas de table, qui est seul dans la vie. Et c'est un jour où non seulement on l'accueille pour déjeuner avec soi, mais on l'invite aussi pour étudier avec nous, notamment donc quand on est rabbin et qu'on étudie. Donc il y a un partage à la fois de la nourriture et de la nourriture spirituelle. Donc c'est un jour de double partage et vraiment centré, je trouve, sur cette hospitalité et sur le chant. Tout à l'heure, nous parlions des femmes et de l'étude, mais pour moi, je reviens à mon obsession du chant et de la musique. Les femmes qui sont exclues dans la tradition orthodoxe ou consistoriale de l'étude et de fait de monter à la Torah et de lire dans la Torah le Shabbat et les jours de fête, c'est aussi les femmes dont on n'entend pas la voix quand on chante à la synagogue. Et donc pour moi, à la fois le rapport à l'étude, le rapport de la lecture de la Torah à la synagogue en public et l'importance de la voix de la femme à la synagogue qui se mêle à la voix des hommes est une chose tout à fait fondamentale.
C'est pas encore au cœur de la pratique du judaïsme orthodoxe. Alors, juste une précision par rapport à la question du judaïsme orthodoxe ou libéral. Je pense que la formule n'est pas judaïsme orthodoxe, mais une pratique orthodoxe du judaïsme, comme on dirait une pratique libérale du judaïsme, parce que le judaïsme est le même dans tous les courants du judaïsme. Alors, votre militance pour la place de la femme est une militance que je partage avec vous. Myriam Ackermann-Sommer, au cœur de la liturgie synagogale, du Shabbat et des fêtes, qui sont dites aussi saintes, il y a la lecture de la Torah, accompagnée d'un temps de méditation et de commentaires de cette lecture. La lecture est au centre de la vie juive, c'est-à-dire c'est lecture, c'est l'étude. Un point essentiel de votre réflexion que vous présentez dès l'introduction de votre ouvrage, Les Nouveaux Moutons de Panurge, et que, d'une certaine manière, vous articulez aussi à la question du retour en introduisant une expression talmudique originale et rarement convoquée par les chercheurs et les penseurs, le hadran, c'est-à-dire le fait de reprendre encore une fois le texte pour le relire et le réinterpréter. En quoi c'est un art tout à fait singulier de la lecture? Expliquez-nous, Myriam Ackermann-Sommer.
Le terme de hadran, qui est vraisemblablement plutôt tiré d'une forme araméenne, est une formule qu'on va réciter lorsqu'on termine l'étude d'un traité, notamment un traité talmudique. On dit « Hadran alar, nous sommes revenus vers toi », comme si on s'adressait directement au texte. C'est un rapport amoureux. D'emblée, vous en parlez d'ailleurs dans les méditations érotiques, le rapport avec le texte est très engageant. Nous annonçons donc au texte, comme pour le rassurer en quelque sorte, nous allons revenir, mais ce faisant, grammaticalement, nous disons aussi « nous sommes revenus ». Nous reviendrons vers toi, on insère le nom du traité à ce moment-là. Il va même y avoir par la suite, dans ce qu'on appelle le hadran, qui est un long texte de fin de traité, un texte de clôture, on va même aller jusqu'à dire « nous pensons à toi et tu penses à nous ». Dans un rapport quasiment éthique et interpersonnel au texte. Comme pour lutter contre l'oubli, mais aussi affirmer que toute lecture n'est pas définitive. Aucune lecture n'est définitive. On ne peut pas dire « Ah, c'est bon, j'ai fini de lire ce texte, je peux passer à autre chose. » Puisqu'on part du principe que la prochaine fois qu'on relira ce texte, on y retrouvera du sens. En ce sens, le Talmud, lu ainsi, fonctionne comme la lecture de la Torah, qui est une lecture cyclique. Chaque année, on reprend à Bereshit, on relit depuis la Genèse, on termine les cinq livres du Pentateuque et on reprend, et on reprend, et ainsi de suite. Pour le Talmud, les sages ont conçu une méthode d'étude qui impliquerait une lecture seconde, une lecture tierce, et ainsi de suite. En disant « Hadran, nous sommes revenus », on se trouve par ailleurs face à un paradoxe qui revient à dire « c'est comme si nous t'avions déjà vu quelque part », une sorte d'impression de familiarité. Et comme dans le cas de la teshuva, où on ne sait pas vers quoi on revient quand on ne vient de nulle part, toute lecture est présentée comme une lecture seconde. Et pour cause, le Talmud est un texte foisonnant de références intertextuelles. Le Talmud porte une infinité d'échos qui renvoient à un au-delà de lui-même. Et en ce sens, nous sommes toujours déjà dans une forme de retour au texte. Toute lecture est une relecture et on appelle une autre. On prête à Armand Abécassis cette formule délicieuse. Le peuple juif est le peuple, non pas du livre, mais de l'interprétation du livre. Peut-être devrait-on même mettre au pluriel. Des interprétations incessantes. La réitération est un élément essentiel en matière d'études. Aussitôt a-t-on fini l'étude d'un traité qu'il faudrait déjà se remettre à l'ouvrage. C'est pourquoi, quand on se confronte à l'étude d'un texte traditionnel quel qu'il soit, Michael le mentionnait déjà au sujet de l'étude de Rashi, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, nous avons une infinité de commentaires et de commentaires des commentaires sur chacun de nos textes. Et donc, une fois qu'on s'y plonge, on ne peut plus vraiment ressortir. On est, en quelque sorte, engagé dans une étude infinie, le livre infini.
Merci Myriam Ackermann-Sommer, merci Michael de Saint-Chéron pour cette conversation passionnante qui a ouvert des pistes de pensée inspirantes et rafraîchissantes. Je rappelle le titre des ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui. Tout d'abord, votre livre commun aux éditions Actes Sud, « Revenir, dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive ». Et votre livre, Myriam Ackermann-Sommer, « Les nouveaux moutons de Panurge », c'est aux éditions Albin Michel. Deux ouvrages très précieux pour notre temps. Merci encore à tous les deux.
Merci.
Merci Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Claire Levasseur, à la réalisation Alexandra Malka, Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.